L'île aux 30 cercueils de Maurice Leblanc. Ils gardèrent un long silence. L'ennemi invisible et présent pesait sur eux de tout son poids formidable. Il était partout, maître de l'île, maître des demeures souterraines, maître des landes et des bois, maître de la mer environnante, maître des dolmens et des cercueils. Il rattachait aux époques monstrueuses du passé les heures actuelles, aussi monstrueuses. Il continuait l'histoire selon les rites d'autrefois et frappait les coups mille fois annoncés. Mais pourquoi? Dans quel but? Qu'est-ce que tout cela veut dire? Demandait Véronique avec découragement. Quel rapport établir entre ceux d'aujourd'hui et ceux de jadis? Comment expliquer que l'œuvre soit reprise et selon les mêmes moyens barbares? Et après un nouveau silence, elle prononçait, car au fond d'elle-même, par-delà les mots échangés et les problèmes insolubles, l'obsédante pensée ne cessait de la poursuivre. « Ah, si François était là! Si nous étions tous les trois à combattre! Mais que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il retient dans sa cellule? Un obstacle imprévu ?» C'était au tour de Stéphane de la réconforter.
« Un obstacle? Pourquoi cette supposition? Il n'y a pas d'obstacle, seulement le travail est long. »«
Oui, oui, vous avez raison. Le travail est long et difficile. » Ah, je suis sûr que lui, il ne se décourage pas. Oh, quelle belle humeur, quelle confiance. Une mère et un fils qui se sont retrouvés ne peuvent plus être séparés l'un de l'autre, me disait-il. On peut encore nous persécuter, mais nous désunir jamais. En dernier ressort, nous serons vainqueurs. Il disait vrai, n'est-ce pas, Stéphane? N'est-ce pas? Je n'ai pas retrouvé mon fils pour le perdre. Oh non, non, ce serait trop injuste, et il n'est pas admissible.
Stéphane la regarda, étonné qu'elle s'interrompît. Véronique écoutait.
« Qu'y a-t-il ? » ?»«
Des bruits. »
Comme elle, il écouta.
« Oui, oui, en effet. »«
C'est peut-être François que nous entendons. C'est peut-être là-haut. »
Elle allait se lever. Il la retint.
« Non, c'est un bruit de pas dans le couloir. »
« Alors ? Alors ?»
Il se contemplait éperdu, sans prendre de décision, ne sachant que faire. Le bruit se rapprochait. L'ennemi ne devait se douter de rien, car les pas étaient ceux d'une personne qui ne dissimule point son approche.
Stéphane prononça lentement. « Il ne faut pas qu'on me voie debout. Je vais reprendre ma place. Vous attacherez mes liens, à peu près. »
Ils demeurèrent hésitants, comme s'ils avaient l'espoir absurde que le danger s'éloignerait de lui-même. Et puis soudain, s'arrachant à cette sorte de stupeur qui la paralysait, Véronique se détermina.
« Vite! Les voilà! Étendez-vous !»
Il obéit. En quelques secondes, elle replaça les cordes sur lui et autour de lui, ainsi qu'elle les avait trouvées, mais sans prendre la peine de les nouer.
« Tournez-vous du côté de la roche. Cachez vos mains. Elle vous dénoncerait.
Et vous ?
Ne craignez rien. »
Elle se baissa et s'allongea contre la porte, dont le judas, barré par des lames de fer, formait saillie dans l'intérieur, de telle façon qu'on ne pouvait la voir. Au même moment, dehors, l'ennemi s'arrêta. Malgré l'épaisseur de la porte, Véronique entendit le froissement d'une robe. Et au-dessus d'elle, on regarda.
Minute effrayante. Le moindre indice donnait l'éveil. « Oh, pourquoi reste-t-elle? Y a-t-il quelque preuve de ma présence? Mes vêtements ?»
Elle songea que ce devait être plutôt Stéphane, dont l'attitude ne semblait pas naturelle, ou dont les liens n'avaient point leur aspect ordinaire. Et tout à coup, il y eut un mouvement dehors, et l'on siffla légèrement à deux reprises. Alors, de la partie lointaine du couloir, il arriva un autre bruit de pas, qui s'agrandit dans le silence solennel et qui vint s'arrêter, comme le premier, derrière la porte. Des paroles furent échangées. On se concertait. Par petits gestes, Véronique avait atteint sa poche. Elle sortit son revolver et posa son doigt sur la détente.
Si l'on entrait, elle se dressait et tirait coup sur coup, sans hésiter. La moindre hésitation n'eût pas été la perte de François.
Chapitre 9. La chambre de mort.
Le calcul était juste, à condition que la porte s'ouvrît à l'extérieur et que les ennemis fussent aussitôt à découvert. Véronique examina donc le battant et, subitement, constata qu'il y avait en bas, contrairement à toute logique, un gros verrou solide et massif. Allait-elle s'en servir ? Elle n'eut pas le temps de réfléchir aux avantages ou aux inconvénients de ce projet. Elle avait entendu un cliquetis de clé et presque en même temps le bruit d'une clé qui heurtait la serrure. La vision très nette de ce qui pouvait advenir frappa Véronique. Devant l'irruption des agresseurs, désemparée, gênée dans ses mouvements, elle viserait mal et ses coups ne porteraient pas. En ce cas, on refermerait la porte et sans tarder, on courrait à la cellule de François. Cette idée l'affola et l'acte qu'elle accomplit fut instinctif et immédiat. D'un geste, elle poussa le verrou du bas. D'un autre geste, s'étant dressée à demi, elle rabattit le volet de fer sur le guichet. Un loquet se déclencha. On ne pouvait plus ni entrer, ni regarder. Tout de suite, elle comprit l'absurdité de cet acte qui ne mettait pas d'obstacle aux menaces de l'ennemi. Stéphane, qui avait bondi jusqu'auprès d'elle, le lui dit.
« Mon Dieu, qu'avez-vous fait? Ils ont bien vu que je ne bougeais pas. Ils savent que je ne suis pas seul. Justement, ils vont essayer de démolir cette porte, ce qui nous donnera tout le temps nécessaire. »
« Le temps nécessaire à quoi ?»«
À notre fuite. »«
Comment ?»«
François va nous appeler. François !»
Elle n'acheva pas. Ils entendaient maintenant le bruit des pas qui s'éloignaient rapidement dans les profondeurs du couloir. Aucun doute, l'ennemi, sans se soucier de Stéphane, dont l'évasion ne lui semblait pas possible, l'ennemi se rendait à l'étage supérieur des cellules. Ne pouvait-il pas supposer, d'ailleurs, qu'il y avait accord entre les deux amis ? Et que c'était l'enfant qui se trouvait dans la cellule de Stéphane et qui avait barricadé la porte. Véronique avait donc précipité les événements dans le sens qu'elle redoutait pour tant de motifs. Là-haut, François serait surpris au moment même où il se disposait à fuir. Elle fut atterrée.
Pourquoi suis-je venu ici ? Il eût été si simple de l'attendre. À nous deux, nous vous sauvions en toute certitude.
Dans la confusion de son esprit, une idée passa. N'avait-elle pas voulu hâter la délivrance de Stéphane parce qu'elle connaissait l'amour de cet homme ? Et n'était-ce pas une curiosité indigne qu'il avait jetée dans cette entreprise ? Idée affreuse qu'elle écarta aussitôt en disant
« Non, il fallait venir, c'est le destin qui nous persécute. »
« Ne le croyez pas, tout s'arrangera pour le mieux. »
« Trop tard. »
« Pourquoi ?» Qui nous prouve que François n'ait pas quitté la cellule ? Vous le supposiez vous-même tout à l'heure. »
Elle ne répondit pas. Son visage se contractait, tout pâle. À force de souffrir, elle avait acquis une sorte d'intuition du mal qui la menaçait. Or, le mal était partout. Les épreuves recommençaient, plus terribles que les premières.
« La mort nous environne. »
Il tenta de sourire.
« Vous parlez comme parlaient les gens de Sarek. Vous avez les mêmes peurs. »«
Ils avaient raison d'avoir peur. Et vous-même, vous sentez bien l'horreur de tout cela. »
Elle s'élança vers la porte, tira le verrou, essaya d'ouvrir. Mais que pouvait-elle contre ce battant massif que renforçaient des plaques de fer ? Stéphane lui saisit le bras.
« Un instant. Écoutez, on dirait... »« Oui ?» C'est là-haut qu'il frappe, au-dessus de nous, dans la cellule de François. Mais non, écoutez.
Un long silence, et puis des coups résonnèrent dans l'épaisseur de la falaise. C'était au-dessous d'eux.
Les mêmes coups que j'ai entendus ce matin, le même travail dont je vous ai parlé. Oh, je comprends.
Quoi ? Que voulez-vous dire ? Les coups se répétaient à intervalles égaux, puis ils cessèrent. Et ce fut alors un bruit sourd, ininterrompu, avec des grincements plus aigus et des craquements subis. Cela ressemblait à l'effort d'une machine que l'on met en marche, l'un de ces cabestans qui servent au bord de la mer à remonter les barques. Véronique écoutait, dans l'attente éperdue de ce qui allait advenir, cherchant à deviner, épiant quelque indice dans les yeux de Stéphane, qui se tenait devant elle et qui la regardait comme on regarde au moment du péril une femme que l'on aime. Et soudain, elle chancela et dut s'appuyer d'une main à la paroi. On eût dit que la grotte, que la falaise tout entière, bougeait dans l'espace. Oh, est-ce moi qui tremble ainsi? Est-ce la peur qui me secoue des pieds à la tête? Violemment, elle prit les deux mains de Stéphane et lui demanda « Répondez, je veux savoir !» Il ne répondit pas. Il n'y avait point de peur dans ses yeux mouillés de larmes. Rien qu'un amour immense, un désespoir sans borne. Il ne pensait qu'à elle. D'ailleurs, était-ce nécessaire qu'il expliquât ce qui se passait? Et la réalité ne s'offrait-elle pas elle-même à mesure que les secondes s'écoulaient? Étrange réalité, sans rapport avec les faits habituels, en dehors de tout ce que l'imagination peut inventer dans le domaine du mal. Étrange réalité dont Véronique, qui commençait à en percevoir les symptômes, se refusait encore à tenir compte. Comme une trappe, mais une trappe qui fonctionnerait à l'inverse, le carré d'énormes olives placé au milieu de la grotte se soulevait en pivotant autour de l'axe immobile qui constituait sa charnière le long de l'abîme. Le mouvement, presque insensible, était celui d'un énorme couvercle qui s'ouvre, et cela formait déjà comme un tremplin qui montait du bord jusqu'au fond de la grotte, tremplin de pente très faible encore et où l'on gardait facilement son équilibre. Au premier instant, Véronique crut que le but de l'ennemi était de les écraser entre le plancher implacable et le granit de la voûte. Mais presque aussitôt, elle comprit que l'abominable machine, en se dressant comme un pont-levis qu'on referme, avait comme mission de les précipiter dans l'abîme. Et cette mission, elle l'accomplirait inexorablement. Le dénouement était fatal, inéluctable. Quoi qu'ils tentassent, quels que fussent leurs efforts pour se cramponner, il arriverait une minute où le tablier du pont-levis serait debout, tout droit, partie intégrante de la falaise abrupte.
Oh, c'est affreux! C'est affreux!
Leurs mains ne s'étaient pas désunies. Stéphane pleurait silencieusement. Elle gémit.
Rien à faire, n'est-ce pas?
Rien.
Cependant, il y a de l'espace autour de ce plancher. La grotte est ronde. Nous pourrions...
L'espace est trop petit. Si l'on essayait de se mettre entre l'un des trois côtés de ce carré et les parois, on serait broyé. Tout cela est calculé. J'y ai réfléchi souvent.
Alors?
Il faut attendre.
Quoi? Qui?
François.
Oh, François, peut-être est-il condamné lui aussi. Ou bien, peut-être nous cherche-t-il et va-t-il tomber dans quelque piège. En tout cas, je ne le verrai pas. Et il ne saura rien. Il n'aura même pas vu sa mère avant de mourir.
Elle serra fortement les mains du jeune homme et lui dit
« Stéphane, si l'un de nous échappe à la mort, et je souhaite que ce soit vous,
ce sera vous. »
Je m'étonne même que l'ennemi vous inflige mon supplice.
Mais sans doute ignore-t-il que c'est vous qui êtes ici.
Cela m'étonne aussi. Un autre supplice m'est réservé à moi. Mais qu'importe. Si je ne dois plus revoir mon fils, Stéphane, je vous le confie, n'est-ce pas? Je sais déjà tout ce que vous avez fait pour lui.
Le plancher continuait à monter très lentement, avec une trépidation inégale et des sursauts brusques. La pente s'accentuait. Encore quelques minutes, et il n'aurait plus le loisir de parler librement, dans le calme.
Stéphane répondit : Si je survis, je vous jure de mener ma tâche jusqu'au bout. Je vous le jure, en souvenir de moi, en souvenir de la Véronique que vous avez connue et que vous avez aimée.
Il la regarda passionnément.
Vous savez donc ? Oui, je vous le dis franchement. J'ai lu votre journal. Je connais votre amour. Et je l'accepte.
Elle sourit tristement.
Pauvre amour que vous offriez à celle qui était absente et que vous offrez maintenant à celle qui va mourir. Non, non, ne croyez pas cela. Le salut est proche, peut-être. Je le sens. Mon amour ne fait pas partie du passé, mais de l'avenir.
Il voulut lui baiser les mains.
Embrassez-moi,
dit-elle en lui tendant son front. Chacun d'eux avait dû poser l'un de ses pieds au bord de l'abîme, sur la ligne étroite de granit qui suivait le quatrième côté du tremplin. Ils s'embrassèrent gravement.
« Tenez-moi bien !»
Elle se renversa le plus possible en levant la tête et appela d'une voix étouffée
« François ! François !»
Mais il n'y avait personne à l'orifice supérieur. L'échelle y pendait toujours par un de ses crampons, hors de portée.